Que bé, això ho tinc de gerar.
Digo de Radio France Internacional, emitiendo
en directo para... Eco, Sire.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous revenons maintenant sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde de Radio France Internationale. Ce soir, pour la rédaction chinoise, c'est avec Nina Wang.
听众朋友大家晚上好
Laura Martel de la rédaction anglophone.
Good evening.
Et Aziz Ahmadfar de la rédaction en langue persane.
Salam.
Bonsoir à vous tous. Alors, aujourd'hui, le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, déclare que la ville de Paris peut devenir le premier centre financier d'Europe et donc supplanter Londres. Paris, qui est en concurrence avec d'autres capitales européennes comme Francfort, Amsterdam, Dublin, pour attirer des banques installées à Londres, désireuses de conserver un accès au marché européen dans la perspective de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2019. Cela donc grâce au Brexit, parce qu'aussi la France se veut plus attractive pour ceux qui veulent y faire des affaires. Cela est dans la droite file de ce qu'a dit le président de la République lundi à Versailles quand il recevait 140 grands patrons avant de les retrouver au sommet économique de Davos. Et c'est d'ailleurs là que mercredi il a lancé.
Ladies and gentlemen, my first message is that France is back. France is back at the core.
Autrement dit, la France est de retour. C'est donc en anglais dans le texte. Justement, Laura Martel, la rédaction anglophone a commenté cette attractivité française vantée par le chef de l'État.
Oui, c'est Tony Cross qui a suivi pour nous l'offensive médiatique du président français pour convaincre citoyens français et investisseurs étrangers d'une attractivité apparemment retrouvée de la France. L'offensive Choose France, ou en français Faites le choix de la France, comme l'a répété donc Emmanuel Macron devant les quelques 140 PDG, vous le disiez, réunis à Versailles. Et dans son analyse publiée sur notre site, Tony explique d'abord que oui, effectivement, il y a un effet Macron qui marche bien auprès des anglo-saxons et en particulier des Américains, grâce à son image personnelle d'abord, sa jeunesse, sa capacité, on vient de l'entendre, à s'exprimer en anglais, mais aussi à développer une communication plus axée sur les nouveaux médias. Aussi à cause de certaines réformes vues comme favorables aux entreprises comme la loi travail ou les baisses de taxes fiscales accordées aux plus aisés. Et en guise d'illustration, donc Tony, c'est d'ailleurs un sondage réalisé par la Chambre de commerce des États-Unis en novembre dernier et qui indique que 72% des investisseurs américains sont optimistes quant aux perspectives de l'économie française contre seulement 30% d'entre eux en 2016.
Pour autant, Emmanuel Macron récolterait les fruits de réformes destinées à attirer plus d'investisseurs lancées avant son arrivée à l'Élysée.
Oui, en fait, c'est pas vraiment nouveau d'entendre chaque gouvernement expliquer que le pays va mieux que sous le gouvernement précédent. Des confrères de la télévision française ont d'ailleurs fait un montage d'archives qui était assez éloquent à ce sujet. On voyait voir tous les dirigeants précédents, de droite comme de gauche, affirmer fièrement que ça va mieux ou que le pays va mieux maintenant qu'ils sont là et sont remontés comme ça jusqu'à Pompidou, donc dans les années 70. Alors, sans remonter bien sûr jusque-là, Tony Cross lui souligne que les investissements directs étrangers avaient déjà gagné 16% en 2016 avant que Macron soit élu, que Macron bénéficie de certaines mesures prises par François Hollande pour attirer les investisseurs, comme par exemple les facilitations de visa pour les créateurs de start-up, ou encore la création de BPI France, cette banque d'investissement qui a été créée en 2013 pour justement soutenir ces start-up. Il bénéficie aussi, sur un plan plus global, du fait que la France est plus attractive aussi à cause des incertitudes créées par exemple sur le marché américain, avec les atermoiements de Trump, ou encore en Grande-Bretagne, avec les inquiétudes, comme vous le disiez, liées au Brexit.
À présent, la Chine vante l'économie ouverte. Elle a clairement l'intention de serrer la main de la France, qui veut donc s'attirer aussi ses faveurs. Comment est-ce que cette volonté s'est-elle exprimée à Davos, telle que vous avez pu l'observer?
En fait, la Chine veut jouer davantage leur rôle dans le libre-échange mondial. Son intention là est vraiment claire. On écoute maintenant le représentant officiel de Chine à Davos, M. Liu He.
Que dit-il?
En fait, M. Liu He dit qu'il envoie le message du président chinois Xi Jinping. La Chine va s'ouvrir plus pour accueillir les entreprises étrangères et va défendre libre-échange avec le reste du monde.
Mais sur la concurrence loyale, dit-on, la Chine se fait beaucoup critiquer. Son mode d'action et sa manière de faire ne correspondent pas vraiment à ce qu'elle dit.
C'est vrai que c'est un sujet épineux même entre la France et la Chine. Mais la Chine choisit quand même de s'approcher davantage vers la France, qui veut de la Chine, en revanche, d'investissement et du marché en développement. En plus, ça tombe bien cette fois-ci, les invités de Davos se réunissent peu après que Donald Trump a annoncé les taxes douanières de plus sur les lave-linges et les panneaux solaires. Cela a agacé la Chine, qui est le premier pays producteur mondial des produits photovoltaïques. Dans la bataille contre l'isolationnisme de Trump, Pékin est à côté de l'Hexagone.
L'Hexagone, c'est-à-dire la France. Nina Wang, le discours d'Emmanuel Macron, comment est-ce qu'il est perçu plus largement par les Chinois, notamment par les gouvernements chinois, bien évidemment?
Certains experts constatent déjà que c'est la première fois que l'Europe s'est décalée des États-Unis sur la vision politique dans le monde après-guerre. Cela a en fait poussé l'Europe, notamment la France, à décider de resserrer la relation avec le géant asiatique. Le fait que l'Europe défend le traité nucléaire iranien et l'accord de Paris, tout cela fait que c'est incontournable que l'Europe et la Chine se mettent ensemble. Et puis en Chine, qui dit l'Europe, dit la France.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette volonté de la France d'être de plus en plus attractive et sur ce sommet de Davos sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets plus particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI, ce qui se passe en Afghanistan. En plus de la violence, avec des attaques, des attentats très réguliers, le pays souffre d'une permanente crise politique entre Balkh, la grande province du Nord, et Kaboul. Nous allons en parler avec vous, Aziz Ahmad Fard, de la rédaction Persane. Alors Aziz, il y a un homme au cœur de cette crise, c'est Atta Mohammad Noor. Qui est-il et pourquoi tient-il au président afghan? Tient-il tête, pardon, au président afghan?
Atta Mohammad Noor est le gouverneur de Balkh, mais en fait, il n'est pas que gouverneur, c'est ce qu'on appelle un seigneur de guerre. On pourrait dire de lui, comme on disait dans son temps de Ismail Khan, le gouverneur de Herat, que c'est un petit roi local. Le gouvernement de Kaboul cherche à s'en débarrasser, bien sûr, et lui, en refusant, il dit que son départ veut dire la chute du gouvernement aussi. On argue contre lui sa position hiérarchique et le fait que le président de la République a légalement et constitutionnellement le droit de limoger les gouverneurs locaux, mais lui, il rétorque en disant que ce gouvernement lui-même est hors cadre légal. En effet, nous nous souvenons tous ici que, suite à des fraudes massives pendant les élections présidentielles de l'Afghanistan, les élections ont été annulées et avec l'intervention de John Kerry, les deux candidats ont été déclarés vainqueurs et ils sont partagés le pouvoir.
Alors au quotidien maintenant, c'est-à-dire sur le terrain, qu'est-ce qui se passe précisément ?
En ce moment, et ça dure depuis plusieurs semaines, tous les jours, à Mazar-e-Sharif, dans le nord, Atta Mohammad Noor tient meeting et se dresse contre Rani et Abdullah et il reçoit beaucoup de soutien.
Que dit-il ?
Il parle en tant que Mujahideen. À ce titre, il se présente en fait comme les Allahu Akbar que vous entendez derrière, c'est justement pour montrer que pour lui, sa source de légitimité vient du fait que c'est un ancien Mujahideen, c'est quelqu'un qui s'est battu contre les Russes, on s'entend. Et il argue le fait que les Mujahideen ont donné 1,5 million de martyrs contre les Russes, et donc de ce fait, le pays leur appartient. Pour lui, Rani et Karzai, c'est des intrus, et donc... Le gouvernement ne peut pas le limoger parce qu'il se présente comme une des parties prenantes de l'affaire de l'Afghanistan.
Et ça dure depuis plusieurs semaines maintenant.
Oui, chaque jour, des délégations différentes, y compris des endroits où les habitants sont de Pashtun, viennent à Mazar-e-Sharif lui déclarer son soutien. Lui-même, il déclare que 90% des gens, des militaires de l'armée, sont aussi ses partisans et donc Kaboul ne pourrait pas utiliser l'armée contre lui.
Faisons un point maintenant sur ces tractations, parce qu'il y en a malgré tout. Est-ce qu'on se dirige vers un conflit ou vers une négociation ?
Donc l'armée ne peut pas intervenir. Par ailleurs, les Américains non plus ne soutiennent pas une intervention militaire. Donc, pour répondre à votre question, visiblement, on avance vers la négociation. Et nous avons quelques informations concernant ces négociations qui sont pas très faciles à vérifier parce que il y a pas de discours officiel là-dessus. Mais il paraît que les négociations portent sur le fait que un certain général Razak de Kandahar, qui est un Pashtun, mais qui est un Pashtun des Moudjahidines, donc de la même filiation que Atta Noor, soit choisi comme ministre de la Défense, parce que c'est quelqu'un qui a montré qu'il est très déterminé contre les talibans. Il demande aussi que certaines personnalités, comme un certain monsieur Atmar et monsieur Stanekzai, qui sont des apparatchiks pashtun, sortent du gouvernement. Il demande aussi à ce que le général Dostum, qui était un homme fort ouzbek du Nord et qui était vice-président et qui a été un peu écarté, soit revienne au pouvoir.
Il demande également la révision de la constitution et l'organisation de nouvelles élections.
Voilà, et donc ça, derrière tout ça, il faut voir le conflit entre le Nord et le Sud, mais aussi le conflit entre les Pashtuns et les Persans, mais il faut voir aussi le conflit entre les technocrates qui sont venus de l'Occident et les Moudjahidines qui étaient sur place. En fait, ce conflit, c'est très intéressant parce qu'on peut y retrouver tous les différents conflits latents dans ce pays.
Et on voit bien que c'est une situation inextricable politiquement, mais également militairement. C'était Aziz Ahmad Farr de la rédaction en langue persane sur RFI. Parlons maintenant des réactions qui continuent après que Donald Trump eut qualifié de pays de merde Haïti, Le Salvador et de nombreux États africains. Aujourd'hui à Davos, le président américain a demandé au Rwandais Paul Kagame, président de l'Union africaine, de transmettre ses sentiments chaleureux au chef d'État du continent qui s'était récemment insurgé contre ses propos blessants, Laura Martel.
Oui, alors à noter d'ailleurs que le mot shithole qui aurait été employé donc par le président Trump selon les parlementaires qui en ont fait état.
C'est un gros mot que j'ai pu dire tout à l'heure.
Et c'est encore plus injurieux en version originale, en fait, que dans la traduction pays de merde en français. Bon, voilà. Ceci dit, donc, petit tour d'horizon de ce qui s'est dit rien que ces derniers jours, sur des tons plus ou moins sérieux, en commençant par une condamnation très ferme d'abord, pour la dernière réaction en date, réaction faite hier depuis Addis Abeba en Éthiopie, où se prépare le sommet de l'Union africaine qui se tiendra ce week-end. Le président de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, est monté encore au créneau et il a dénoncé, je cite, des déclarations qui ont profondément choqué l'Afrique par un message de mépris et de haine.
Et le président du Parlement panafricain a surenchéri, Laura.
Nous, peuple africain, nous sentons outrés et condamnons fermement ces propos inhumains, indignes d'un pays de ce niveau. Il s'agit effectivement d'un message de mépris et de haine, a déclaré le Camerounais Roger Nkodo Dang, et d'ajouter: je pense que Trump ne mérite même pas d'être à la tête des États-Unis. Alors il faut dire quand même que pour les dirigeants africains, il est bien sûr plus facile de s'offusquer ouvertement au nom du continent que d'entrer dans un rapport conflictuel avec la superpuissance au nom d'un seul État. Et l'indignation africaine d'ailleurs pourrait aller plus loin. D'après les infos de nos envoyés spéciaux Christophe Bobouvier et Anne-Marie Bissada, eh bien les chefs d'État africains pourraient adopter une résolution dite très musclée sur ce même sujet dimanche.
Alors pour le moment, on n'en sait pas plus sur ce que serait le contenu de cette résolution, mais tous les dirigeants africains ne sont pas sur la même longueur d'onde, Laura Martel. Le président ougandais, par exemple, a fait une sortie remarquée.
Oui, Yoweri Museveni, lui, est bien loin des condamnations faites par ses homologues. On rappelle que le Sénégal et le Botswana étaient allés jusqu'à convoquer l'ambassadeur américain pour explication, que 48 anciens ambassadeurs de pays africains aux États-Unis avaient aussi diffusé une lettre ouverte à Trump pour leur dire leur profonde inquiétude suite à ses propos et lui demander de réviser sa vision de l'Afrique. Mais Museveni, lui, n'est pas choqué, bien au contraire, écoutez.
Il n'est pas choqué?
Non, et en fait, il dit d'abord que Trump est le meilleur président que les États-Unis n'aient jamais eu. Et ensuite, tout simplement, I love Trump. Il aime Trump. Alors pourquoi cette déclaration d'amour? J'aime Trump parce qu'il parle des faiblesses de l'Afrique avec franchise, nous dit-il, avant d'enfoncer le clou en soulignant que, je cite, « les Africains doivent résoudre leurs problèmes. On ne peut pas survivre si on est faible. Et c'est la faute des Africains s'ils sont faibles. »
Et comme la dérision vaut mieux parfois qu'un long discours, eh bien en Namibie, une agence de tourisme a détourné les propos insultants de Trump pour en faire un outil de promotion.
Oui, et pour ça, ils ont même utilisé un imitateur de Trump. Écoutez plutôt comment commence cette vidéo.
Good morning, Trump America. If ever you would want to leave your so beautiful and perfect country and come to a real shithole country in Africa, We would like to invite you to come to Shithole, Namibia.
Allez, une traduction littérale.
Eh ben, bonjour Amérique de Trump, nous lance l'imitateur. Si jamais vous avez envie de quitter votre magnifique et si parfait pays pour visiter un vrai pays de merde africain, eh bien, nous vous invitons à visiter la Namibie, le numéro 1 des pays de merde en Afrique.
Sauf qu'évidemment, tout cela, bah, c'est du second degré. Hein.
Oui, et puis l'expression pays de merde est en fait reprise hein, tout au long de la vidéo comme un leitmotiv pour décrire en fait des paysages qui sont absolument magnifiques, des déserts, des lacs souterrains. Et évidemment, hein, c'est ce contraste entre la grossièreté des propos et la reprise de ce mot shithole et la beauté des images qu'on voit qui en fait évidemment rire l'auditeur. Et puis donc cette vidéo se termine par une dernière pirouette, une pirouette qui utilise, vous allez l'entendre, un extrait d'une vraie conférence de presse donnée par Trump.
So you're more than welcome to visit Africa's number one shithole country, known to your president as
Namibia.
Voilà, venez en Namibie, nous dit l'agence, ou plutôt justement, comme Trump l'avait dit devant des dirigeants africains, en Namibie. Et à savoir donc que cette vidéo, hein, Philippe, a fait un véritable carton. Quelques 700 millions de personnes l'ont vu juste en 10 jours.
Laura Martel de la rédaction anglophone de RFI. Parlons de la démographie en Chine. La Chine qui compte 1 milliard 400 millions d'habitants, c'est toujours le pays le plus peuplé du monde. La politique de l'enfant unique qui prévalait depuis une trentaine d'années a été levée en 2015, mais depuis la croissance du nombre de naissances n'est toujours pas suffisante, d'après de nombreux experts. De quoi s'agit-il précisément, Nina Nguyen ?
Le mot insuffisante est même trop faible selon des analyses. Certains tirent déjà la sonnette d'alarme sur un risque en Chine d'avalanche démographique dans le futur. Et le risque semble bien imminent. Vers la fin de ce siècle, la population de Chine pourrait descendre jusqu'à 1 milliard, voire 600 millions. C'est prédit dans les derniers rapports des Nations Unies sur les perspectives de la population mondiale.
Alors cette décroissance démographique, est-ce qu'elle n'est pas évidente et prévisible pour un pays dès qu'il se développe ?
Oui, mais à condition que la transformation de modèle économique se réalise. Et ce n'est évidemment pas encore le cas pour la Chine. Imaginons que ce qui se passera s'il lui manque de 7 millions de population sur surtout que la croissance économique dépend toujours sur le dividende démographique, c'est-à-dire l'avantage économique est créé par un nombre maximum de jeunes adultes productifs et non par le développement durable. Pour cela, on écoute professeur Wu de l'Université d'éducation de Hong Kong.
Alors, le professeur Wu est donc de l'Université d'éducation de Hong Kong. Quelle est son analyse ?
En gros, il dit que la structure démographique est plus importante que le nombre en total, mais puisque la Chine s'oriente davantage vers le vieillissement, cela posera de grands problèmes.
Et tout cela n'est pas sans rappeler avec ce qui s'est passé au Japon.
Oui, exactement. Depuis les années 90, l'avantage démographique du Japon est remplacé par le déficit. Le pays ainsi est entré dans un climat fléchi de 25 ans.
Sans parler de la pression sociale que subiront les générations nées sous la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire quand le vieillissement pèsera de plus en plus lourd en Chine.
C'est vrai, en Chine, si on regarde un couple par exemple, dans lequel chacun est enfant unique de sa propre famille, ces deux personnes vont devoir économiquement supporter 4 personnes âgées, leurs parents et 1 ou 2 enfants si la politique de l'État ne change pas. Immobilier, éducation, tout coûte cher et n'oublions pas que dans ce pays, la naissance totale par sexe est gravement déséquilibré, ce qui traduit les 200 millions de célibataires chinois à nombre de records. D'où cela explique que même si la politique de l'enfant unique est annulée, les Chinois ne font pas suffisamment de l'enfant pour que la population puisse renouveler à un bon rythme.
Nina Wang de la rédaction chinoise de RFI. Voilà pour Accent du Monde, merci pour votre écoute. Vous écoutez Radio France Internationale. Dans quelques instants, le rappel de ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans le monde.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en brésilien.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Écoutez RFI en brésilien à Belém sur 93.7 FM et sur br.rfi.fr.